Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à toutes et à tous, le Festival International de Géographie de Saint-Dié, 22e du monde, ne démarrera que dans 5 jours, mais on en profite pour vous donner un petit avant-goût, une avant-première de sa thématique l'Afrique plurielle, paradoxe et ambition. Tout un programme qui décidément coïncide une fois de plus avec l'actualité géopolitique. Alors y a-t-il malice là-dessous? C'est ce qu'on va voir avec le président fondateur du FIG et maire de Saint-Dié.
Christian Piret, encore une édition du FIG qui colle absolument à l'actualité géopolitique.
Oui, on a eu, je crois, une très bonne inspiration de choisir l'Afrique avec ses paradoxes et ses espoirs. Continent multiple, aux visages, aux langues, aux ethnies si différentes et aussi aux espoirs si différents. Avec la révolution égyptienne, la Tunisie, les événements de Libye, avec la Côte d'Ivoire, on a en effet un panel de révolutions au sens le plus large du terme qui fait de l'Afrique un continent que tout le monde va regarder cette année et qui promet beaucoup. Par exemple, les élections tunisiennes vont être un test de la capacité de ce continent à se modifier dans le sens démocratique, à évoluer dans un sens que nous jugeons pour notre part positif. Ce test va se reproduire dans d'autres pays. Vraiment, c'est une très bonne idée d'avoir choisi cette année, à titre exceptionnel, puisque nous, d'habitude, ce ne sont pas des aires géographiques. Sauf pour l'Amérique, à l'occasion de... Oui, en 2007, 1507, la carte de l'Amérique 2007. Mais ce sont des thèmes horizontaux. Là, ce sont des thèmes qui regroupent une région géographique avec ses diversités, ses contradictions et surtout ses avancées. Savez-vous, par exemple, que l'Afrique fait 5% de croissance cette année, c'est-à-dire 3 fois la croissance économique française, que l'Afrique a une jeunesse extraordinaire qui représente souvent beaucoup plus que la moitié de la population de tel ou tel État, que l'Afrique est une ressource pour le monde entier en eau, en forêt, en matières premières, bref, que c'est un continent qui bouge, c'est un continent qui doit s'approprier sa propre réalité, sa propre image, dont les peuples doivent accéder à la maturité mondiale, et ils sont en train de le faire. Donc nous sommes vraiment à un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Les peuples sont en train de rentrer dans un processus qui va faire d'eux les pivots du monde futur.
Alors, avec un message porteur d'espoir, grâce au Rwanda, pays invité d'honneur, pays qui revient de très loin, mais qui est allé très loin.
Oui, 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 ben c'est une très bonne chose que nous ayons pu, Jean-Robert Pitt et moi-même, connaître l'ambassadeur du Rwanda, ainsi être sans doute, avec ce FIG 2011, la première des manifestations où le Rwanda va être très à l'honneur, où son ambassadeur va participer, où l'État du Rwanda va faire un effort particulier de présentation de sa propre évolution et de ses progrès gigantesques depuis le tragique génocide qui a endeuillé ce pays qui a perdu plus d'un million d'habitants en 100 jours. Nous sommes heureux d'être ainsi un modeste instrument, mais un instrument quand même de la réconciliation entre la France et le Rwanda. On sait qu'il y a eu des périodes plus tendues, des périodes diplomatiques plus difficiles. Le FIG va contribuer à revenir à la normalité et essentiellement revenir à l'amitié et à la considération réciproque.
En tant qu'homme politique, quel regard portez-vous justement sur les relations que la France entretient avec l'Afrique, le Rwanda en particulier à titre d'exemple ?
Bien, avec le Rwanda, nous sommes en train de normaliser nos relations. Elles doivent être maintenant culturelles, économiques et tout à fait normales avec ce pays qui est petit par la surface mais important et par l'histoire et par ce qu'il peut apporter au monde. Ce pays qui représente beaucoup. Il est autosuffisant sur le plan agricole. Il est très jeune, 60% de la population a moins de 25 ans. C'est donc un pays qui représente beaucoup d'espérance. On dirait la même chose d'autres pays voisins, même si la situation politique est très différente dans le pays que je vais citer, mais le Nigeria est un pays qui connaît une croissance économique très forte. Il n'est pas jusqu'à, évidemment, l'Égypte et la Tunisie qui, en relation nouvelle au plan politique intérieur, vont apparaître comme des pays de l'avenir. Et du Maghreb au nord jusqu'à la République sud-africaine au sud, il y a évidemment beaucoup à attendre de l'Afrique. La France doit jouer un rôle. Elle ne peut pas laisser ni aux États-Unis d'Amérique ni à la Chine la prééminence et le monopole des relations avec l'Afrique. Nous avons à reprendre notre rôle, sans doute sur un mode différent de ce qu'on a appelé la France-Afrique traditionnelle, mais nous avons à jouer la partie de notre langue, du développement économique partagé avec les pays africains, d'un respect mutuel, d'une admiration de notre part pour la civilisation de l'Afrique et d'une entente qui, sur beaucoup de plans, en commençant par le plan économique et en poursuivant par le plan de la culture et de l'apport africain à la civilisation mondiale, seront certainement très fructueux.
À croire que le Festival international de géographie de Saint-Dié est aussi le dernier salon de la géopolitique et pourquoi pas d'une certaine diplomatie. Pour preuve, les pays invités d'honneur, dont le Togo et le Rwanda, représentés par leurs ambassadeurs respectifs et quelques grandes personnalités politiques. Bref, un festival qui va donner lieu à quelques cogitations scientifiques et géopolitiques. Et pourquoi pas à quelques débats polémiques, quelques pistes avec Frédéric Clérambeau, le directeur du Festival international de géographie.
L'Afrique plurielle, c'est un sujet très complexe et très varié, parce que l'Afrique, c'est quand même 53 pays, donc 53 problématiques à la fois différentes, mais qui se rejoignent dans les grands itinéraires du FIG. Donc l'itinéraire numéro 1, lui, est plutôt développement durable, écologie. Il s'intéressera à, comment dirais-je, la préservation des paysages, comment préserver ce patrimoine des paysages africains dans leur diversité. Le deuxième traitera de l'Afrique qui bouge au point de vue géopolitique, hein, on le voit dans l'actualité, ça bouge en Afrique du Nord, en Côte d'Ivoire, dans l'Est du Congo, donc question qui se pose sur les limites et les frontières qui sont vraiment en mouvement. L'itinéraire numéro 3, lui, s'intitulera « Un milliard d'hommes et après ». C'est vrai, l'Afrique a une démographie qui reprend du poil de la bête, et qui signifie que la jeunesse est un capital humain très très important. Mais derrière ça, on a des questions de santé. On va parler des avancées en matière de lutte contre le sida et de la lutte contre le paludisme. Parce que bon, l'Afrique, on meurt du sida, mais aussi on en guérit. Il y a des médicaments génériques en Afrique du Sud. On trouve des solutions de plus en plus intéressantes pour limiter le risque de contraction avec le VIH. On parlera aussi de pharmacopée traditionnelle, de tout ce que l'Afrique amène au monde en termes de solutions naturelles pour se soigner, etc. Parce que bon, vous regardez la forêt du Congo, c'est le deuxième espace forestier tropical au monde. C'est une mine de plantes médicinales qui guérissent et qui soignent. L'itinéraire numéro 4, ce sera l'Afrique vue sous un angle économique. Donc l'Afrique, le continent qui va compter dans les années à venir au point de vue économique. L'Afrique, c'est 5% de croissance par an. Leur mandat, comme le disait l'ambassadeur tout à l'heure, c'est 8% avec des pointes à 11%. C'est énorme, alors que la France, on est à peine à 1%. Certes, ce n'est pas les mêmes conditions de départ, mais bon, c'est un rattrapage fulgurant, c'est un grenier de matières premières, c'est des investissements des nouvelles puissances comme l'Inde, la Russie, le Brésil, la Chine, même les Turcs, même les Coréens s'attaquent à des marchés très particuliers en Afrique, que ce soit les télécoms, le bâtiment, avec les Chinois qui sont omniprésents. L'itinéraire numéro 5, tu traiteras de l'Afrique comme une pluralité culturelle, hein, parce que d'Afrique du Nord en Afrique de l'Est, Ouest ou Sud, les langues ne sont pas les mêmes, les cultures sont différentes, et expliquer aussi comment l'Afrique est rentrée dans la mondialisation et que le continent africain et les Africains en général sont des gens ayant une forte capacité d'adaptation par les contextes géographiques. En Afrique, il n'est pas rare qu'on parle trois langues, une langue nationale, une langue officielle et une langue traditionnelle. Par exemple, au Rwanda, comme on l'a vu, l'ambassadeur parle sa langue maternelle, le rwandais, le français, l'anglais et le swahili, qui est la langue régionale d'Afrique de l'Est. Donc, montrer comment justement la culture africaine et les Africains sont vraiment des gens de la mondialisation. Et l'itinéraire numéro 6, lui, traitera plutôt de la Réunion, Mayotte et des TAF, et des nouveaux enjeux pour cette France d'outre-mer qui jouxte l'Afrique et qui s'impose dans l'océan Indien et dans les espaces commerciaux et d'échanges, puisqu'on est entre l'Afrique, l'Inde, la Chine. Il y a aussi beaucoup d'expéditions scientifiques dans les terres australiennes et antarctiques françaises. C'est un lieu d'expérimentation dont les bases de départ sont à la Réunion. Donc on va voir comment ces territoires s'articulent avec l'Afrique et toute la zone de l'océan Indien.
Et dans ce magazine, en ouverture du Festival international de géographie, nous nous intéresserons tout particulièrement au Rwanda et au Togo. Ce magazine, nous avons posé la problématique africaine dans son grand ensemble. On l'a vu, un pays très jeune, très ambitieux aussi et qui se donne les moyens de sa réussite. À l'exemple du Rwanda qui, après un génocide qui a fait plus d'un million de morts, est un pays à la tête d'une technologie plutôt avancée. Pensez, la fibre optique est en train de gagner tout le pays. Parmi les personnalités invitées de ce FIG, Jacques Caballé, ambassadeur du Rwanda en France depuis 2010, mais il est aussi juriste et il est spécialisé dans les questions de développement économique et humain. Et parmi les nombreuses missions qu'il a effectuées pour son pays, il est l'un des rédacteurs de la constitution rwandaise actuelle. Rencontre.
C'est une opportunité très rare que nous allons exploiter, de pouvoir donner justement cette image de l'Afrique et du Rwanda que le monde n'a pas, que la France n'a pas non plus, et qui est différent complètement de ce que souvent on voit dans les médias. L'Afrique est jeune, l'Afrique est en train de démarrer, il se passe énormément de choses en Afrique. Le Rwanda sort d'un génocide, un génocide qui l'a marqué fort. Le Rwanda s'est tourné vers l'avenir, est en train de reconstruire son pays, de consolider son peuple, de le réconcilier avec lui-même. De façon inévitable, l'expérience rwandaise devrait servir à l'ensemble de l'Afrique. Un génocide ne se limite pas à un pays. Un génocide, c'est l'humanité tout entière qui est concernée. Mais l'après-génocide, c'est-à-dire la reconstruction des âmes, la réconciliation des peuples, la reconstruction du pays, l'orientation vers l'avenir. Cela est une expérience extraordinaire. D'autres pays commencent déjà à profiter de cela. Vous savez, quand un pays connaît un drame comme celui-là, tous les pays voisins sont concernés. L'Europe a vécu la même chose. Il y a eu un génocide au Rwanda, le génocide perpétré contre les Tutsis. Mais c'est toute la région de Grand Lac qui a été déstabilisée. Ceux qui ont perpétré les génocides au Rwanda, ils sont dans les forêts du Congo. Cela, déjà en 1994, le Rwanda avait attiré la sonnette d'alarme de la communauté internationale en disant « Ceux qui viennent de perpétrer les génocides sont au Congo, sont aux frontières du Rwanda. Éloignez-les, désarmez-les, parce qu'ils ont traversé avec armes et munitions, arrêtez-les. » Et aujourd'hui, le risque est que toute la région soit déstabilisée pour un moment. Dieu merci, il y a une bonne entente entre les pays, la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ces pays qui sont concernés. Et donc demain, nous aurons certainement une solution régionale.
On parle d'une manipulation d'un système politique qui a conduit à ce génocide, vous démentirez ou pas, et vous parlez aussi en solution de l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui une telle manipulation serait encore possible?
Les vieux démons sont toujours dans les hommes, quel que soit le temps. Mais je pense que le Rwanda a fait des pas de géant dans ce domaine. Les discussions ont eu lieu à tous les niveaux, justement pour éviter que de telles situations ne se retrouvent. De telles manipulations, puisque le Rwanda l'a connu en 94 avec les dirigeants en place, serait difficile aujourd'hui, d'autant plus que les dirigeants actuels ont mis en place non seulement des mécanismes, mais des lois, des textes, une constitution qui permet d'être de garde-fou à ce genre de choses. Les textes ne suffisent pas. Il faut éduquer les hommes. Et je crois que c'est là où le travail le plus important a été fait. La commission Unité Réconciliation que le Rwanda a mis en place a permis des débats francs, sincères au sein de la population. Aujourd'hui, la population, si jamais il devait y avoir quelque chose qui irait dans le sens d'une discrimination, je crois qu'il y aurait une réaction au travers de ces mécanismes et au travers de cette maturité que la population aujourd'hui a. Et puis, n'oubliez pas que l'ignorance était quelque chose de très important et qu'aujourd'hui, l'enseignement
est gratuit et obligatoire. Et donc, il y a une forte éducation, une instruction qui permet aujourd'hui aux Rwandais quand même d'analyser les situations et les politiques avant d'accepter ou de courber les chines.
Ma dernière question sera d'ordre plus géopolitique, tout du moins régional. Quelle est la place du Rwanda dans cette région d'Afrique des Grands Lacs aujourd'hui? Quelle est son influence et sa capacité à agir dans le sens de la démocratie?
Je crois que le Rwanda occupe une place aujourd'hui importante dans la région, de par l'expérience qu'elle a accumulée. Vous savez aujourd'hui que le Rwanda exporte les forces de maintien de la paix aujourd'hui de l'Afrique. Et l'armée rwandaise a été tellement modèle dans ses forces de maintien de la paix au Sud-Soudan, à Haïti, au Libéria, que les Nations Unies ont donné même la responsabilité de ces forces qui sont composées de plusieurs nationalités aux Rwandais. C'est déjà un premier signe. Une deuxième chose, c'est la politique qui est menée au Rwanda, notamment la tolérance zéro en matière de corruption, la rigueur au niveau de dirigeants. Vous savez, aujourd'hui, aussitôt que vous êtes nommé au niveau d'un poste élevé, vous avez l'obligation de déclarer vos revenus. C'est un changement de mentalité extraordinaire qui permet, puisque c'est actualisé annuellement, de donner une autre image de l'Afrique, une autre image du Rwanda, et qui sert de modèle au niveau de l'Afrique et au niveau de la région.
L'éveil du continent africain passe par le Rwanda.
Bon, je n'irai pas jusque-là, mais ce que je sais, que le Rwanda apporte sa petite pierre dans cet éveil. Et vous êtes là, vous le constaterez avec votre expérience.
Bien sûr, la voix de l'ambassadeur du Rwanda, Jacques Kabale, est celle de l'État. Elle est un peu officielle. Ses propos ont été enregistrés au mois de mai dernier. En septembre, les choses avaient un peu évolué entre la France et le Rwanda et la France, avec un aller-retour du président de la République Nicolas Sarkozy sur place et visite-retour président Kagame à Paris le jour même de la conférence de presse présentant le Festival international de géographie à la presse nationale et internationale. Christian Pierret, le président fondateur du Festival international de géographie et maire de Saint-Dié, ancien ministre de l'Industrie, avait été lui aussi en visite au Rwanda une semaine avant le chef de l'État.
Nous avons été au Rwanda il y a quelques semaines avec les animateurs du Festival de géographie. Nous avons aperçu que le pays était en voie de réconciliation et que, sous l'autorité du président Kagame, on cherche au Rwanda, et c'est d'ailleurs également l'intention française, et le président Sarkozy s'est rendu là-bas, on cherche à renouer les liens, à dépasser les conflits et les antagonismes qui étaient nés de l'effrayant génocide de 1994, et on veut rebâtir. Donc pour rebâtir, il faut dépasser les anciennes querelles. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec la visite officielle rwandaise en France, ce qui s'est fait hier avec la visite officielle française au Rwanda, et Kigali et Paris peuvent maintenant aller de conserve travailler ensemble.
Autre coïncidence de ce FIG, pendant la conférence de présentation du Festival international de géographie à la presse nationale et internationale, le président Kagame, lui, a quelques pâtés de maison plus loin rencontré les chefs d'entreprise français. Car la visite rwandaise en France a plutôt un tour économique diplomatique. Rien d'étrange à cela pour Anastase Chiaka du Rwanda Governance Advisory Council.
Quand on regarde l'opinion publique, ou du moins ce qui est déversé dans l'opinion, on sent qu'il y a un petit retard par rapport à la réalité du Rwanda et de son état, de sa gouvernance du côté rwandais, comme le président l'a dit hier à son homologue Nicolas Sarkozy. Il y a une volonté réelle de tendre la main, de regarder vers l'avenir, sans oublier le passé. L'expérience de ces 15 dernières années au Rwanda, c'est que nous vivons la réconciliation au quotidien. Et il n'y a pas de difficultés qui peuvent empêcher deux êtres humains, deux pays, à se parler, à normaliser leurs relations, même lorsqu'ils ont des problèmes. Ce qui est important, c'est ça. Où nous mettons l'accent dans nos relations, On met l'accent sur nos problèmes ou on met l'accent sur la recherche des solutions à ces problèmes.
L'exercice était de haute volée, d'autant plus que des opposants au président Kagame criaient à l'attentat contre la démocratie à quelques pâtés de maison de là. Et pourtant, il y aurait de quoi mettre un peu en colère le président du Rwanda Governance Advisory Council. Car en fait, il s'agit de l'instance qui garantit quelque part le bon fonctionnement démocratique du pays. Explication.
Ça fait partie des institutions que le Rwanda, dans sa marche vers la reconstruction, a mises en place. Et l'institution dans laquelle je travaille, donc, qu'on appellerait en français, c'est le Conseil consultatif de gouvernance au Rwanda, il a été mis en place spécifiquement pour promouvoir la bonne gouvernance à travers le suivi et le contrôle des mécanismes de bonne gouvernance, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine civique, et dans le domaine corporatif. Et on le fait à travers la recherche, on le fait à travers le renforcement des capacités de certains groupes comme la société civile et les médias. C'est vrai que ce genre d'institution est rare sur le continent et peut-être ailleurs, mais c'est pour ça aussi qu'on dit que le Rwanda aussi est champion dans l'innovation, que ce soit dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine de gouvernance. Donc ce qui se dit sur la gouvernance au Rwanda, moi qui suis dans la matière, ça me fait rage et ça fait très mal au cœur, parce que souvent quand on est en train d'innover de manière claire et nette sur un aspect, et c'est à ce moment que certains groupes justement choisissent le moment pour poignarder, je pourrais dire, l'opinion ou intoxiquer l'opinion.
Principalement visé par Anastase Chiaka, deux organismes dont Human Rights Watch et Reporters sans frontières. Un débat que nous ne pourrons alimenter faute de l'avis des intéressés pour le moment.
Le magazine du samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Décidément, le Rwanda concentre les paradoxes et les ambitions de l'Afrique. Il est à lui tout seul quasiment le sommaire de ce 22e Festival international de géographie qui ouvre d'ici quelques jours. Le pays des mille collines qui investit massivement dans les nouvelles technologies. Le budget 2012-2013 devrait recevoir 8,4 millions d'euros pour la recherche dans ce domaine. Une croissance à faire pâlir d'envie même le gouvernement chinois, puisqu'en 2010, on estime que le Rwanda a enregistré un taux de plus de 7,5%, avec une moyenne supérieure à 6% depuis 2004. Enfin, petite curiosité rwandaise, mais elle n'est pas des moins intéressantes, le Parlement y a développé la parité homme-femme. Et oui, on peut en prendre de la graine, nous autres Européens. Paradoxe, bien sûr, c'est qu'au-delà de la réconciliation, une nouvelle division naît, cette fois contre les visions critiques de ce pays. Mais finalement, la démocratie en Afrique ne saurait en aucun cas être calquée sur une démocratie vue depuis la France. Et pour mieux comprendre cela, le regard d'un Français qui connaît particulièrement bien l'autre pointe de l'Afrique, celle qui s'étend du Niger au Mali jusqu'en Afrique du Nord et au Maroc. Il s'agit de Jean-Pierre Valentin, documentariste originaire de Gérardmer, qui avait signé en 2009 un film sur la route des caravanes qui a connu un vrai succès. Il est également l'auteur des fameuses séries Graines d'Homme diffusées sur la chaîne culturelle Arte. Il revient cette année avec un nouveau film sur les bords du fleuve Niger jusqu'à la savane, les traces d'un de ses amis Kobohana. Et coïncidence, ou peut-être pas tout à fait, ce magnifique documentaire sera diffusé à Gérardmer et nulle part ailleurs, à la Maison de la Culture et des Loisirs, justement le jour d'ouverture du Festival International de Géographie, ce 6 octobre. Alors quel regard Jean-Pierre Valentin porte-t-il sur cette révolution qui semble prendre un axe du nord vers le sud du continent africain ? Quelque part au milieu, coincé juste à côté de la Libye et de l'autre côté du Mali, le Niger. Et c'est de ce promontoire que Jean-Pierre Valentin nous livre sa vision proxémique de l'Afrique.
Les rébellions Touareg des années 90 jusqu'aux années 2000, puisqu'on a eu des départs de rébellions Touareg fin des années 2000, donc 2006-2007 jusqu'en 2009, au nord Mali et au nord Niger, mais qui n'avaient rien à voir, on va dire, ces révoltes Touareg, avec ce qui se passe au Maghreb ou au Machrek aujourd'hui.
Et c'est important de faire le distinguo.
Voilà, hein, c'est pas du tout les mêmes... au niveau du monde Touareg, c'est vraiment des révoltes des guérillas sahariennes par rapport à des communautés du désert qui veulent à l'intérieur de leur territoire, donc là vraiment nigériens et maliens, donc on est vraiment dans des pays d'Afrique noire, même s'ils ont une forte composante vers le nord et vers le Sahara, donc vers le Maghreb quelque part, hein, puisque c'est des portes de sortie aussi pour les migrants, ainsi de suite, vers la Libye, entre autres. Hein. Eux ont plus des revendications de plus grande autonomie, sans avoir nécessairement une volonté forte de changer le gouvernement, et ainsi de suite. En tous les cas, ce sont des pays qui sont dans une certaine progression démocratique, en quelque sorte, avec des élections. Alors, on peut toujours discuter des élections, hein, de la justesse de l'élection, du vote ethnique par rapport à tel ou tel candidat, mais néanmoins, voilà, c'est un peu le passage obligé. On passe pas, finalement, de régime un petit peu ancien, féodaux ou militaire, souvent, à une démocratie pleine, entière, ouverte. Donc, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Par rapport aux années 90, par exemple, les revendications des Touaregs, c'était aussi d'avoir des représentants plus haut niveau de l'État, d'entrer dans l'armée finalement. Donc parfois aussi de revendiquer un certain statut particulier pour leur territoire, mais aussi de revendiquer une certaine intégration finalement. Hein, puisque certains étaient bien conscients que c'était compliqué de demander une scission, une indépendance, ainsi de suite. Donc c'était peut-être, c'est sûrement le bon chemin d'ailleurs, une meilleure intégration. Et ça existe de fait, ça a changé entre les années 90 et les années 2000. On a quand même un changement et une meilleure intégration des communautés isolées comme les Touaregs à l'intérieur du pays.
Le Niger est coincé entre la Libye de l'après-Kadhafi, enfin qui est d'ailleurs pas tout à fait encore après-Kadhafi, de l'autre côté le Mali et toute une zone très difficile à surveiller avec la présence d'ACMI. On connaît l'histoire de Pierre Kamat, entre autres, Vosgien enlevé par ACMI, maintenant on le sait, dans cette zone. Donc finalement, le Niger et Kabouana sont des populations qui sont un petit peu cernées par des problèmes qui les concernent assez peu.
Oui, tout à fait. Eux sont d'ailleurs, par exemple, si vous voulez, en 2009-2010, mes derniers longs séjours sur place pour la réalisation du film, automne 2009, printemps 2010, justement quand dans les moments aussi où Pierre Kamat a été enlevé. J'étais à Niamey d'ailleurs quand il a été libéré au printemps 2010. Donc on était déjà complètement dans cette problématique, dans cette insécurité qui est là depuis plusieurs années, puisque les enlèvements sont déjà assez anciens. On en a un peu plus parlé, entre autres ici, par rapport à l'enlèvement de Pierre Kamat. Et puis, ça c'est comme les enlèvements se sont rapprochés, les problèmes sont devenus plus aigus, entre autres pour nous ressortissants français, avec l'enlèvement ensuite de Michel Germano, puis des personnes travaillant pour Areva ou pour les sociétés qui travaillent pour Areva. Et puis, le drame avec les deux jeunes Français embarqués, enlevés à Niamey, tués dans l'altercation avec les forces spéciales françaises dans la région de Ménaka au Mali, qui est une région que l'on connaît bien aussi, puisque la Brèche et l'armée sont jumelés avec des territoires.
C'est là que Pierre Kamat travaillait en plus.
Exactement, c'est là que Pierre Kamat s'était installé pour ses projets par rapport à des communautés touareg qu'il connaissait bien. Alors c'est vrai que ces éleveurs des steppes du Sahel, finalement, sont un petit peu cernés par ces problèmes politiques au nord, assez compliqués à analyser aussi pour eux, évidemment. Au sud aussi, des régimes, au Niger, il y a eu quand même pas mal de soucis avec un coup d'État d'ailleurs au printemps 2010 justement, qui s'est bien terminé, puisqu'on on est arrivé comme promis par les militaires au moment du coup d'État pour rétablir une certaine démocratie qui déviait. C'est pas très stable au sud. On a eu des problèmes, ça va beaucoup mieux. Au nord, c'est totalement instable depuis ce printemps 2011. Et puis, au cœur de ce désert qu'il fréquente finalement, hein, dans lequel il circule, enfin, de ces marges sahariennes, on va dire, eh bien, il y a ce problème des terroristes, des bandits, des trafiquants, parce que tout est un petit peu entremêlé.
54 pays africains, 54 situations différentes, et surtout une analyse très approfondie que l'on pourra trouver lors des différents débats qui seront proposés pendant ce 22e film. Figue de Saint-Dié. Dans les anciens locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Dié-des-Vosges, c'est au pied de la Tour de la Liberté, et il y aura quelques débats qui se tiendront dans l'ancienne salle d'audience du tribunal d'instance. Et oui, là aussi, on n'en est pas à un paradoxe près. Car évidemment, le Festival international de géographie n'est certainement pas là pour faire le procès de l'un ou de l'autre, mais bien nous éclairer dans une certaine joie foisonnante du gai savoir. Tout est en accès libre et pour en savoir plus sur le salon du livre, sur les conférences du FIL, je vous invite à nous retrouver dans un second numéro du MAG de la rédaction spécial FIG la semaine prochaine, même heure, même endroit. Dans quelques instants, d'autres informations internationales et nationales. Le prochain rendez-vous d'informations locales vous sera présenté par Jean et Didier. Ce sera l'édition de la mi-journée à 12h30. Un grand merci à tous nos intervenants ainsi qu'au service communication de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et du Festival international de géographie, et particulièrement à Vianney Huguenot, Laetitia Martel et Freddy Clérambeau pour leur coup de main. Le 22e FIG du 6 au 9 octobre à Saint-Dié-des-Vosges, l'Afrique plurielle, paradoxe et ambition, un magazine de la rédaction de Cocktail FM que vous pourrez retrouver d'ici quelques minutes sur notre site internet www.cocktailfm.com, rubrique info, onglet Mac du samedi. Passez un excellent week-end.